Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des portes et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux grâce à Histoire de succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois à nouveau Fabien Olicard, lui qui était l'un des premiers invités dans Histoire de succès. Je vous mets d'ailleurs un lien dans les notes de cet épisode pour écouter ou réécouter son épisode enregistré en 2019, où on revient sur son histoire, son enfance et son resto savoyard. Parce que oui, Fabien a tenu un resto savoyard à un moment donné dans sa vie. Dans cet épisode, on parle plutôt de ses livres, de ses divers projets, à l'occasion de la sortie de son dernier bouquin intitulé « L'anti-guide de la manipulation ». D'ailleurs, on cause de la façon dont il arrivait à ne pas tomber dans cette image de gourou avec ses bouquins tournés autour du développement personnel, et vous entendrez, comme d'habitude, sa réponse est très intéressante. On discute aussi de la façon dont il a géré cette pandémie en tant qu'artiste du spectacle vivant, car n'oublions pas que c'est sur scène que Fabien a commencé et continue de performer. Il s'en est d'ailleurs très bien sorti puisqu'il a continué à embaucher du monde pendant cette année. Faut dire que Fabien est en train de construire un empire autour de lui qui est assez impressionnant. En tout cas, un grand merci à lui pour sa disponibilité. Quelle joie toujours de faire le point avec lui sur sa vie, son œuvre. Je vous souhaite une bonne écoute en la compagnie de Fabien Olicard. On est donc avec Fabien Olicard. Salut Fabien.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Ben ça va très bien, et toi?
Ça va bien. Fabien, je crois même qu'on s'était pas revu personnellement depuis le premier épisode qu'on avait fait ensemble dans ce podcast.
Ah c'est oui, je crois que tu as raison. Mais déjà il y a eu un an et demi de parenthèse covidesque. Tu vois, et après peut-être un an de vie rythmée, de tournée, et de toi, de plein de changements, de choses que tu fais, etc. Ça nous a éloignés.
Oh là là.
C'est triste.
Ça me fait plaisir de t'avoir là.
Moi aussi.
Et tu sais que j'étais en contact avec toi à travers tes livres pendant ce temps-là, en
permanence.
Ah
oui, on discutait ensemble, ouais. Sauf que je t'entendais pas, mais tu m'écoutais parler.
Je te reçois là aujourd'hui par rapport à ton actualité, de ce fameux bouquin là que t'as sorti qui s'appelle « L'anti-guide de la manipulation ».
Oui, tout à fait.
J'avais pas du tout suivi, je t'avoue, la sortie. Et quand je l'ai vu par hasard dans les rayons de la FNAC, je me suis dit... Qu'est-ce qu'il est fort, Fabien. Et juste avant ça, tu m'avais complètement mindfuck avec ton bouquin sur le temps.
Ah oui,
qu'on s'était, je crois en plus qu'on s'était vraiment raté à quelques semaines avant la sortie du bouquin, pour que je puisse le lire, parce que j'avais plein de questions à te poser sur ce livre. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette période pour toi dont on est en train de sortir, là, j'imagine?
Nous pouvons parler de tout.
En tant que humoriste, personne qui vit du
spectacle vivant.
Voilà.
De la rencontre avec le public. Période compliquée, mais pas tant qu'il n'y paraît pour moi, en tout cas.
Ok.
En gros, on a été confinés. Le premier confinement, c'était mars 2020. Moi, je suis arrivé au bureau avec tout le monde pour leur donner le shift et leur dire comment on allait télétravailler et tout, et faire une réunion. Et le premier truc que j'ai dit, c'est à partir d'aujourd'hui, dans deux jours, je vais vous envoyer un truc, mais à partir d'aujourd'hui, on considère qu'on est en confinement pour 100 ans. Et on fait tout comme si on est en confinement et que toutes les règles du jeu ont changé. Ce à quoi, je crois que c'est Loïc qui m'a dit, ouais, mais si ça reprend comme avant, J'ai dit, bah, tant mieux, on sait faire. Il n'y a pas de, il y aura jamais de difficulté à refaire comme avant. Mais dis-toi que dès le mois de mars, dès le deuxième jour du confinement, nous, on changeait notre mindset en mode, c'est confinement éternel et on coupe tout espoir de reprise. Ouais. Et tant mieux si ça revient. Et du coup, en partant de là, on a quand même eu un coup d'avance, si tu veux. C'est-à-dire que moi, durant le confinement, au lieu de...
T'as combien de salariés aujourd'hui ?
À temps plein, j'en ai 8.
Ah ouais.
Et après, comme j'ai aussi des associés sur plein de projets, ça fait un groupe de 100 personnes qui travaillent sur les projets en tout. Quoi, tu vois.
Quoi ?
Ouais, ça fait beaucoup de gens. et du coup...
Quoi ?
Quoi ? Mais c'est beaucoup de 100 personnes. Mais après, c'est les moyens humains de mes associés,
oui,
en fait, sur
c'est
les projets.
C'est pas que les tiens en tant que... sur tes projets.
Pour le coup, bah, par exemple, très clairement, spectacle vivant. Comme je ne produis qu'un spectacle, c'est le mien. Ce serait pas intéressant d'avoir ces postes-là à plein temps chez moi, tu vois. Et du coup, en partant de ce truc-là, on a vite quand même redémarré. On a été les premiers à proposer, je fais des conférences aussi en B2B. On a été le premier à être setupé, à les proposer en ligne. Donc, on n'a pas perdu une seule conférence.
Quand tu dis tu fais des conférences en B2B pour expliquer aux gens, tu donnes des conférences dans les entreprises,
exactement,
c'est ça?
Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être, une entreprise d'aéronautique qui veut avoir une conférence sur la mémoire pour ses salariés, par exemple. Et c'est plutôt festif en général quand ils font ça, donc c'est des conférences qui sont un peu légères dans le ton, mais de toute manière, je ne sais pas être sérieux durant 2 heures, oui. Donc tu vois, c'est cool. Donc ça, dès le mois de mars, on était OP. Le spectacle, on a été le premier one man à faire des spectacles en ligne. Même si j'en ai fait que 3 dans l'année parce que j'avais pas du tout envie que ce soit mon quotidien, tu vois. Mais tu vois, on a vite rebondi. Alors, la partie spectacle, clairement, on m'a arraché une partie de mon cœur à plus pouvoir jouer. C'est-à-dire que en 12 ans de scène, le plus long que j'avais fait sans jouer, c'était 3 semaines. T'imagines le délire là qu'on a vécu. Et fondamentalement, évidemment, en tant que producteur de mon spectacle, j'ai perdu énormément d'argent, tu vois. Parce que les assurances n'ont pas suivi, en plus, à partir du moment où on reporte une date,
oui, parce que
la date existe.
Okay.
Tu vois.
Ah ouais, donc tu...
Donc c'est très compliqué.
Tu veux dire qu'à chaque fois qu'on voit tous les artistes dire les dates reportées, etc., etc., pour le grand public, ouais, ça veut dire qu'en fait, il y a une perte lourde ouais, pour le producteur à chaque ouais, fois qui a réservé
ça,
la date.
Exactement. En fait, c'est-à-dire que le grand public se dit « Ah, il reporte pour pas perdre l'argent de la billetterie ». En réalité, si on reportait pas, on toucherait l'assurance et ce serait plus simple. Parce que en reportant, on va être obligé de recommuniquer, reprendre des billets de train, reprendre des hôtels. Et en fait, on a plein de frais engendrés comme ça, qui sont des frais incompressibles qu'on récupérera jamais, si tu veux, quoi. Donc on maintient, en tout cas de mon côté, je maintiens les dates parce que je veux qu'il n'y ait pas de déçus, quoi. Mmh. C'est aussi bête que ça, c'est que la personne à qui on a offert un billet pour mon spectacle à Lille en 2019, qu'il l'a eu à Noël 2019 pour une date de 2020, eh ben, il pourra venir en octobre 2022, toujours avec ce même billet. C'est hyper important pour moi, quoi, tu vois. C'est, parce que c'est pareil, hein, les délais de remboursement, je n'ai pas envie de dire aux gens, vous aviez qu'à être vigilant et vous faire rembourser en temps et en heure, tu vois.
Bien sûr.
C'est pas leur responsabilité, c'est pas de la note non plus ce qui s'est passé, mais c'est nous qui avons le pouvoir de faire que ce soit fluide, tu vois. Donc ça a été, ouais, une période assez dure en tant qu'homme, mais pas en tant que pro. En vrai, on fait une super année, et tout s'est bien passé de ce côté-là, quoi. Tu vois, je t'ai dit, durant le Covid, j'étais la seule boîte à embaucher. J'ai fait 3 nouvelles embauches et j'ai pris des bureaux un petit peu plus grands. Donc, ça se passait bien, quoi.
Déjà, tu as pris des bureaux. Et ça.
J'ai pris des bureaux. J'ai pris des bureaux quand tout le monde télétravaillait. C'est con, quand même.
Je sais pas trop comment ça va se passer de la vie dans les bureaux, la post-Covid, tu vois. Est-ce que c'est. Je crois qu'il y a des gens qui ont tellement apprécié l'idée de se dire qu'ils vont travailler chez eux, de pouvoir travailler de n'importe où, etc. Là où le télétravail était un peu un gros mot, je crois, auparavant, mais même pour les patrons. Hein.
Nous, on télétravaillait déjà avant le Covid.
Okay.
C'est-à-dire que traditionnellement, ceux qui bossent avec moi peuvent télétravailler 2 jours dans la semaine, officiellement.
C'était cadré dans votre boîte.
En temps réel, c'est le mardi et le jeudi qu'ils peuvent télétravailler. Et après, officieusement, ils télétravaillent quand ils veulent. Ils savent mieux que moi ce qu'ils ont à faire, s'ils doivent être là ou pas. Quoi, tu vois.
Okay.
Donc on était... tu vois, par exemple, Loïc, mon monteur, avait déjà le bon ordi chez lui, avec les bons trucs. On avait déjà un système de NAS en ligne... tu vois, on était un peu confinement ready.
Oui, internet ready, quoi,
ouais,
finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça.
J'ai une amie qui travaillait dans une maison d'édition. Eux, ça a été un cataclysme, mais en fait, ils étaient pas prêts du tout. Non. Et pendant 15 jours, ils s'envoyaient des boucles de mail, en fait. Ils n'avaient pas de système de chat. Et donc, en fait, ils avaient une boucle de mail où ils se répondaient par chat.
Incroyable.
Par mail, comme ça.
Ouais, c'est clair. Oui, bah, c'est des boîtes qui ne connaissent pas Trello, Monday, les trucs de tâches partagées, les chats en ligne et tout ça. Qui, nous, on avait déjà, parce qu'en fait, en réalité, avec le spectacle, c'est moi qui suis en télétravail tout le temps.
Oui.
Je suis toujours sur les routes, je ne suis jamais là. Et donc, il fallait que je mette ça en place pour être virtuellement au bureau déjà, tu vois.
Malin. C'était une très bonne idée, je trouve, d'avoir dit on est en confinement pour 100 ans.
Ouais.
Je trouvais que c'était pas du tout une bonne idée de la part du gouvernement de venir dire il y en a pour 15 jours, ouais, tu vois, parce que dans mon équipe à l'époque, tout le monde était en train de dire non, mais c'est bon, il y en a pour 15 jours. Et moi, je leur disais, alors j'ai pas mis 100 ans, mais moi, je leur disais on est parti pour 2 mois, préparez-vous. Et en fait, 2 mois, c'est déjà long dans ta tête.
Ouais, bien sûr.
Je trouvais ça, mais je trouve que c'est une, encore une meilleure idée de dire on est confiné ad vitam.
Ben ouais, non mais en fait
c'est l'apocalypse dehors.
C'est moi aussi, hein, j'ai compris le move du gouvernement. J'avais même fait une vidéo comme j'avais fait l'analyse Macron de son premier discours où il disait 15 jours et je disais comme toi, je disais donc là ça va être 2-3 mois. Vraiment, ça se voit qu'il lui-même ne projette pas ces 15 jours, vraiment. Et je comprends politiquement parlant le côté je veux pas un mouvement de foule. Par contre, ce n'est pas nous aider en fait, quoi, parce que ok, on panique pas maintenant. Par contre, on va vivre toutes les déceptions des reports de fin de confinement. Et en plus de ça, on n'est pas capable d'être flexible, en fait. Tu nous enlèves la possibilité d'être flexible si tu nous fais croire qu'il faut juste ronger son frein 15 jours. Il faut vraiment, si tu veux qu'on soit flexible, nous enlever l'espoir de ça dure pas longtemps. Tu vois, c'est au contraire. Dis-nous tout de suite, préparez-vous quand même à initier des changements, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça reprendra, tu vois.
Moi, je t'avoue que je ne sais pas comment j'aurais fait à sa place. Je me dis, c'est un problème impossible à résoudre, j'ai l'impression.
Mais c'est fou. Et puis, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que signer le confinement d'un pays, en tant qu'homme, c'est pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire que ce soit Olivier Véran, Macron, qu'on soit pour eux, contre eux, pour la politique, contre la politique, en tant qu'humain, dire putain, je suis la personne qui valide la cessation de mon pays, ça doit être chaud, sa maman, de vivre avec ça quand tu vas te coucher le soir, là, quoi, tu vois.
T'avais un homme politique au Québec, je sais plus exactement, qui avait re-signé le confinement de son comté et qui pleurait en direct.
Bah, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. C'est impensable, en fait, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Moi, je me souviens d'Olivier Véran qui était en Italie un mois ou deux avant nous, avant que ça ferme chez nous, et ils annonçaient le confinement en Italie. Et lui, il était revenu en se disant, nous, jamais de la vie, on pourra jamais faire ça. Et 2 mois après, c'était notre tour, quoi, tu vois. Je pense qu'il y avait un vrai déni global de tout le monde de ça ne peut pas arriver. Et en même temps, on a vécu un truc historique, parce qu'on a vécu un truc qui ne peut pas arriver, quoi, en temps normal, tu vois. On aura vécu ce truc-là de... On confine un pays, quoi. On a vécu un confinement entier, une cessation entière des activités. Ça a été possible de le faire. Et on est assez résilient pour le vivre, quand même, au final, hein, parce qu'il y a 1 an et demi qui se sont passés. On l'a vécu. Bon, après, la dette que ça va engendrer, on va entendre parler à peu près 800 ans, sûrement, tu vois, parce que... Mais on vit dans un pays riche qui a pu ouvrir les vannes quand même pour essayer de subvenir à quand même pas mal de choses. Et encore une fois, hein, on va payer ça dans le temps, mais toi, ne serait-ce que tu parlais des artistes, pour ma partie, alors moi je suis plus intermittent, mais je pensais à tous mes potes intermittents du spectacle, c'est quand même incroyable de se dire il y a 1 an en arrière, ils savaient que jusqu'en août 2021, l'assurance chômage continuerait à prendre en charge leur statut de technicien ou d'artiste. C'est vraiment une exception culturelle française incroyable, quoi. On a énormément de chance, vraiment.
Et on parle pas non plus de la santé mentale. Enfin, ça commence à venir petit à petit. Ouais. Là, je le vois dans les médias de temps en temps. Mais je crois qu'on va sans doute payer un lourd tribut après tout ça. Je sais pas si t'as vu Bo Burnham.
Non.
Il a sorti un special sur Netflix où il parle de ça. Si vous êtes auditeur, auditrice et que vous avez pas vu, ça vaut la peine d'être vu, quoi. Parce que il met en scène son propre désarroi par rapport à l'isolement et par rapport au fait que, en plus, le mec a fait un nervous breakdown, il a fait un burn-out il y a 5 ans, et il s'était dit juste avant le confinement qu'il était prêt à remonter sur scène. En fait, il a remonté la pente et tout. Boum.
Ouais, c'est incroyable. Mais ouais, les impacts psychologiques vont être très forts. J'ai fait une vidéo moi récemment sur c'est quoi l'impact de plus avoir de contact physique quotidien. Tu vois, ça, on n'y pense pas. On parlait aussi beaucoup du burn-out. Là, il y a un nouveau truc quand même, enfin, c'est pas nouveau, mais qui va se mettre en branle et qui s'est mis en branle durant le confinement dont on parlait peu, c'est le bore-out.
T'en parles dans ton bouquin.
J'en parle dans le bouquin, ouais. C'est un truc terrible, le bore-out, se faire chier. C'est ne plus savoir ce que tu vas faire demain et ne plus de trouver de sel dans ce que tu fais. C'est fou, la dégradation psychologique de ta place dans ton propre univers, quoi, tu vois. Donc il y a quand même pas mal de choses comme ça qui vont bouger et dont, oui, on va payer un lourd tribut sûrement de tout ça, ouais. Avec des phases de déni, et donc il va falloir aussi accepter mais en fait, je ne vais pas bien depuis tel temps, et sûrement à cause de ceci, cela, et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire, et quelle est ma responsabilité là-dedans.
C'est fou, hein.
Même si les conséquences sont externes, la responsabilité est interne.
Je voulais parler avec toi de ton empire que tu es en train de monter sur dans l'édition.
Oncle Picsou, parlons un peu.
Non, mais en fait, je trouve ça génial de ton parcours par rapport à tes bouquins, en fait. Où tu sors ton bouquin sur le cerveau, c'était ton tout premier.
Premier, hein, en 2017.
Tu as expliqué la façon dont tu avais construit de façon très logique et
pragmatique.
Dans ton système à toi, tout l'aspect du titre, de la couverture, ouais. etc. Et j'ai la sensation, alors ce bouquin a cartonné, et donc bah j'imagine bien que ton éditeur après est venu te voir en te disant, n'en ferait-il pas un deuxième ?
Frérot, tu veux pas réécrire ?
On n'en ferait-il pas un deuxième ? C'était ta volonté, toi, de base, quand t'as écrit ton premier bouquin sur le cerveau, t'avais déjà en tête l'idée de faire une collecte ?
Ouais. Enfin, j'espérais pouvoir le faire. Je savais des sujets que je voulais traiter. La manipulation, l'anti-guide, c'était déjà noté.
Okay.
Un livre sur le temps, c'était déjà noté. Et en fait, pour ça, il fallait... en fait, si tu veux, pourquoi je me projetais là-dedans ? Parce que quand je me projette dans le temps, loin dans le temps, je me dis, à partir d'un certain âge, je suis pas sûr d'avoir envie de faire 100 représentations par an. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire des vidéos sur YouTube telles que je les produis aujourd'hui. Par contre, je suis presque certain d'avoir envie de me poser quelque part, peu importe où, dans le monde ou en France, en train d'écrire, tu vois. Donc, je me projetais facilement à ça. Mais pour pouvoir écrire à loisir, il faut que ça te rémunère. Et pour que ça te rémunère, il faut que ça plaise aux gens et qu'ils aient envie de le lire. Donc, j'avais un peu misé un enjeu comme ça sur le premier bouquin aussi de « si ça marche, je pourrais continuer ». Et le premier livre, j'avais beaucoup de matière que j'avais pas exploité pour le premier livre, qui me permettait d'écrire le deuxième, qui est pas une suite, mais on peut commencer par l'un des deux et les deux marchent en binôme. Et le vrai enjeu, c'était le troisième bouquin pour moi, Votre temps est infini, de se dire, ok, là, j'écris un truc où il n'y a pas un organe de presse qui va se dire, oui, logique, un mentaliste qui écrive un temps sur l'organisation, c'est plutôt, on m'invitait sur les plateaux en me disant, donc, vous bluffez les gens dans votre livre? Pas du tout. Ce n'est pas du tout le but de ce livre. Et de se dire, donc, les médias vont pas comprendre ce livre. Et les gens qui me suivent, est-ce qu'ils vont comprendre aussi ce livre, tu vois? Est-ce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il écrit? Pourquoi il fait ça? C'est bien placé pour savoir qu'en France, on aime bien les cases et que ça déborde pas trop, quoi. Et j'ai dit, je tente le coup et je verrai. Je l'ai sorti. C'est mon plus gros stress, ça a été celui-là, quoi.
Tu racontes d'ailleurs que c'est ton projet le plus personnel.
Ouais.
Tu l'expliques aussi clairement que ça.
Ouais.
Et tu parles beaucoup de toi.
Ah, énormément.
Alors que d'habitude, dans tes vidéos, etc.
J'étais très inspiré par le non-fiction américain.
Okay.
Tu vois, où si tu lis par exemple Pourquoi les leaders se servent en dernier, donc c'est un ancien Marines. Moi, ce que j'adorais, c'était suivre la pensée de l'auteur via les anecdotes qu'il racontait au présent, comme si c'est comme une caméra embarquée, en fait. Et de là, après, il m'expliquait sa théorie, mais je comprenais pourquoi il avait cette théorie puisque j'avais vu sa vie.
T'as raconté l'histoire.
Ouais. Et je m'étais dit, Fabien, faut passer par là, hein, parce que si c'est ce que t'aimes lire, faut que tu essayes d'offrir ça aussi, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça, ouais, que c'est. Et puis, je voulais surtout pas que ce soit un bouquin aussi de. Pour gérer ton temps, fais ça, crois-moi sur parole, je suis un spécialiste, spécialiste de rien, moi j'étais juste, en vrai, regarde, je suis un gros procrastinateur, et c'est ce que j'ai dû mettre en place pour moi, tu vois, je voulais vraiment que ça se sente en fait, ce truc-là.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Pour revenir à la genèse de ce bouquin, tu racontes dedans beaucoup d'anecdotes perso, tu racontes ton enfance, etc. Tu fais preuve d'une grande vulnérabilité, ça a été compliqué pour toi ? Parce que je crois que c'est la première fois que tu faisais ça. Hein.
Ouais, à écrire, non, parce que j'écris au kilomètre, et puis quand t'écris, t'as pas l'impression que quelqu'un va le lire, t'écris pour toi. Apparition, je m'en suis pas rendu compte, parce que je suis pas derrière les gens qui le lisent. Et c'est quand j'ai lu le format audio, quand on a enregistré le livre audio. Il a été acheté en livre audio. Et quand je suis allé l'enregistrer en studio, je me suis dit, oh là là, putain, je raconte tout ça. Et là, le fait de le verbaliser moi-même, je suis obligé de l'assumer, si tu veux, quoi, tu vois. Et là, par contre, j'ai vécu ce truc de, wow, ça fait bizarre de lire son journal intime à des gens, tu vois, publiquement. Il y avait un côté un peu comme ça, quoi, tu vois. C'est, mais je me suis quand même forcé pour les autres livres à continuer un peu cette mécanique-là. En me disant c'est pas mal, et le livre suivant qui s'appelle Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau va encore plus loin dans le côté non-fiction. Donc lui, quand j'ai lu la version audio, j'ai pleuré en l'écrivant, pleuré en le lisant sur certaines parties, et je me suis dit ok, c'est comme les spectacles, à chaque fois que tu réécris tu vas plus loin dans le deep. Et du coup je me suis dit le prochain livre ce sera sur la manipulation, parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, et là, c'est moins personnel, ça me touche moins, ce sera moins précis, et je suis pas capable d'enchaîner un troisième livre où je vais encore plus bas en moi, je vais me préserver un an, en fait. Et c'est vrai, dans la mécanique, c'est pour ça que celui-ci, le dernier, est un peu moins non-fiction que les autres, quoi.
Ok. En fait, c'est vraiment ta volonté à toi, à un moment donné, de venir... partager ton expérience et ton savoir au plus grand nombre, en fait.
Ouais. Moi, je suis né déjà avec deux choses, je pense, un ADN très curieux et un ADN de partage. C'est-à-dire que vraiment, dès que j'apprends un truc qui me stimule, j'ai envie de te le raconter et de te l'expliquer. Et de manière simple, parce que j'ai peur que ça te fasse chier. Ouais. Tu vois? Mais pour la fun fact, j'ai appris les échecs petits, j'avais 5 ans. Et apparemment, dans la cour de récré, je découpais des papiers pour apprendre à mes potes comment on déplaçait les pions. Tu vois, c'est vraiment le truc de... Dès que j'apprends un truc, j'ai envie de t'en parler, quoi.
Tu voulais jouer avec eux ? C'était pour ça aussi ou...
Non, j'avais envie qu'ils comprennent à quel point, quand on jouait au petit bonhomme à la guerre, c'était de la merde à côté de ce jeu de guerre-là qui était trop fort, quoi, tu vois, et que vous alliez kiffer le côté de... Parce que moi, on me l'a appris vraiment comme un petit jeu de guerre amusant, tu vois, les échecs. Ça a été l'angle d'apprentissage qu'on m'a injecté, et du coup, je trouvais ça trop bien, quoi, tu vois. Mais là, on a que deux cavaliers, du coup, il faut penser à l'attaque de la cavalerie différemment, en la protégeant, tu vois. J'adorais ça. Et du coup, je crois que j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir tout partager, d'où les conférences, d'où le fait que dans les spectacles, j'explique plein de choses. On retrouve ça, la curiosité, le partage dans tout ce que je fais, et c'est pas contrôlé, tu vois. C'est vraiment une envie, une vraie envie. Si demain, tu me demandes de faire un tour à la télé, de venir faire des tours de mentalisme une fois par semaine dans ton émission, ben ça va pas me plaire de ouf. C'est à vous me l'avez proposé en quotidienne.
Ok.
Et j'avais refusé. Parce que c'est pas ça qui m'épanouit. Si tu veux ça, tu demandes à un pote à moi, Victor Vincent, c'est vraiment le meilleur pour faire ça, tu vois, en France, en mentalisme. Et ce sera la bonne personne pour venir faire un tour tous les jours, tu vois. Moi, je me suis épanoui dans Antidote, là, sur France 2, où ils m'ont appelé. Là, j'ai dit ok, parce que je faisais une chronique. Et c'était libre à moi de faire un tour pour appuyer ma chronique ou pas. Et je crois que sur les 12 émissions qu'on a enregistrées, il y en a que 4 où je fais du mentalisme dans le sens bluffant du terme et 8 où j'explique des trucs qui sont bluffants à connaître, tu vois, et hyper intéressants, mais qui n'ont pas besoin que je te bluffe en disant « choisis une carte, je la retrouve », quoi, tu vois.
Ça te saoule que les médias, ils viennent te demander justement que tu viennes bluffer les gens?
Non, 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 ça me saoule pas parce que ce serait cracher dans la soupe et pas assumer ce que j'ai construit, tu vois.
Ouais.
Par contre, j'ai compris, en fait, pour parler, j'ai compris quelles étaient mes limites que je me pose. C'est-à-dire que si demain tu m'appelles parce que t'as une émission, là, ce que je viens de faire là, j'avais 5 minutes sur RTL, ils me contactent pour le livre. Donc en 5 minutes, je te fais pas une démo. Parce que 5 minutes, c'est le temps de la démo. Et que si tu m'as contacté, c'était pour le livre. Ben, en fait, ce qui me saoule plus, c'est la projection de contenu gratuit de certains médias.
Ah tu oui, vois qui et, reprennent le ouais. bout et qui après le mettent sur les réseaux,
oui,
etc.
Okay. Et en fait, je me suis pris la tête avec un producteur d'une émission télé sur France 2, dont je te dirai le nom après, du coup.
Ouf, alors, ce sera que pour moi.
Et en gros, c'est une émission où ils nous demandent que je prépare des choses, etc. Et donc, je fais mes propositions parce que c'est, il y a une espèce de guide de ce qu'ils aimeraient. Donc, je fais les propositions et tout. Et il renvoie un mail à mon attaché de presse où, il le savait pas, mais j'étais en copie. Il a pas fait gaffe. Il me déglingue, quoi. Où il écrit, ni bonjour ni merde. Il écrit, non, mais ce sera pour une autre fois. Si c'est pour entendre parler de trucs qu'on a vu mille fois sur Internet, ça m'intéresse pas. Et c'est pas assez bluffant et nanana. Et c'est vraiment très trash. Bon, comme il était en copie, je me suis fait un plaisir de lui répondre. Je dois avoir le mail, ce serait long à trouver. Mais en gros, je m'excuse platement. J'ai dit bonjour, machin. J'ai bien reçu. Non. Il dit machin. Moi non plus, je ne vous dis pas bonjour parce que vraiment, nous sommes des personnes apparemment trop importantes et trop pressées dans la vie pour avoir le temps de la moindre des politesses. Donc ça, je l'attaque direct.
Ça commence.
Et j'explique, pardon, j'avais pas compris que j'étais un chroniqueur gratuit et bénévole. Et en tant que chroniqueur et employé bénévole, j'aimerais bien dans ces cas-là que mon patron me dise exactement ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, plutôt que de me dire prépare ce que tu veux et de démonter comme ça ce qu'il fait. Et puisque vous connaissiez tout ça, est-ce que vous saviez que, et là je déroule tout ce qu'il savait pas sur ce que j'avais préparé, tu vois, parce que il me semble pas l'avoir vu sur Facebook et Internet. Et bon, bref, tu vois, j'y vais vraiment fort, quoi, ouais. Tu vois. Et après, il a appelé pour s'excuser platement, etc. Et j'ai fait l'émission, mais tu vois, il y a ce côté-là de t'as en un mentaliste, non mais il vient, il bluffe tout le monde, il nous fait 10 minutes de contenu et il repart. Et non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Si tu accueilles quelqu'un, t'as envie de le recevoir. Mmh. Tu peux ne pas avoir envie de me recevoir, c'est pas un souci, tu vois. Mais si tu m'accueilles, pense d'abord à comment tu m'accueilles, c'est-à-dire pas comment tu m'aimes, mais pourquoi, les vraies raisons de l'accueil. Mmh. Et après, si tu veux qu'on construise quelque chose de plus chaud, de plus artiste et que tu veux une démonstration de ça, c'est ok. Et ça va dans la construction de mon passage, mais c'est pas viens, fais des trucs et repars, quoi, tu vois. Voilà, c'est le seul truc qui peut me saouler avec les médias.
Ok. J'aimerais expliquer aux gens pourquoi il faut qu'ils lisent tes bouquins, en fait, parce que j'ai appris tellement de choses. Tu sais, moi, je les ai achetés à mes filles. J'ai acheté la gestion du temps à mes filles, tu vois, parce que pour moi, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école.
Ouais.
Et qu'on devrait apprendre à l'école. Oui, et tout comme le bonheur est dans ton cerveau,
ouais,
où tu parles de visualisation, méditation, etc. Enfin, en gros, tout se passe dans la caboche, quoi. C'est pareil, c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école, quoi.
Oui, ce serait bien qu'il y ait une heure par semaine de j'apprends à apprendre et j'apprends à me comprendre.
J'apprends à apprendre.
J'apprends à apprendre. Alors ça, si je devais militer un jour en politique, ce serait mon seul programme de dire en primaire, on a une heure d'éducation civique, ben on va aussi avoir une heure de j'apprends à apprendre. C'est-à-dire, comment tu peux mettre 30 enfants face à un tableau noir en leur disant, et maintenant vous devez tout retenir et tout comprendre, mais tu leur as pas donné le mode d'emploi de ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est... Alors, ça change. Hein. Je dis ça depuis des années, mais ça change parce que les nouvelles générations d'instituteurs et d'enseignants arrivent et beaucoup sont très attentifs, en fait, à ça et font eux-mêmes ce taf-là. Et je les félicite vraiment très fort.
C'est hors programme à chaque fois, en même temps.
C'est ça, ouais. Mais déjà, rien que le fait de mettre 30 élèves devant un tableau noir, c'est antinomique avec la méthode d'apprentissage des mammifères. Et comme on oublie un peu qu'on est des mammifères et des animaux, tu vois, tous les animaux apprennent avec le jeu, par le jeu et l'émotion positive, sauf un qui s'est dit, on va en mettre 30 et on leur dit, ne parlez pas et ne rigolez pas, quoi. Tu vois, c'est fou quand même, en vrai, quand tu y réfléchis. Et tu dis, donc, on est anti-instinct, anti-nature dans notre apprentissage, quoi, tu vois. Et quand moi, je donne des conférences depuis très longtemps sur la mémoire, je vois à quel point plus la personne est âgée, plus ça va être dur de switcher de mode. Tu vois, parce que les méthodes de mémoire naturelle du cerveau, qui étaient utilisées par les Grecs et tout, elles conviennent de passer, du coup, c'est vrai, pas mal de temps dans l'encodage, à l'apprentissage. Par contre, après, tu reviendras plus dessus. Et nous, on a l'habitude d'aller très vite sur l'apprentissage et de réviser, de bachoter, de revenir mille fois dessus. Et donc, quand tu expliques les méthodes à quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans, il te dit « Non, non, mais attends, ça prend vachement de temps, ton truc. » Et c'est très dur de lui dire « Ça prend moins de temps. » que le temps cumulé des moments où tu révises et où tu repères l'information et que tu dois la réapprendre, etc. Tu vois.
Tellement.
C'est fou.
Il faudrait. Est-ce que ton but dans ton empire à venir, ce serait pas de créer une école ?
Une école, non. Je crois pas. Ou alors, ce serait vraiment un centre dans lequel les bonnes personnes viennent. Pour apprendre aux autres, tu vois,
ce serait pas
et que je gérerais
toi,
pas moi-même,
c'est
tu
pas
vois,
forcément ouais. Toi qui donnerais tous les cours, ouais,
non, non, ou même qui gérerait le truc, quoi, tu vois, mais je serais une très bonne locomotive un très bon wagon de ce genre de projet, mais je suis pas sûr d'être la locomotive de ça, parce qu'en fait, je suis une bonne locomotive que sur les projets de vie qui me parlent énormément, quoi, tu vois, okay. Faut que ça
quand
me
quand je te dis
beaucoup.
École, ça te
non, ouais, tu vois,
ça vibre pas en toi.
Non. Mais par contre, participer à ça, être un peu le script docteur du fonctionnement ou des trucs comme ça, ça me plairait, tu vois. Mais juste pas les emmerdes qui vont avec.
Si vous êtes en train de vouloir monter une école, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un petit message.
Professeur
à Fabien.
Charles Xavier, je suis à votre écoute. École des X-Men.
Est-ce que tu reçois des messages, j'imagine, plein de gens dont tes vidéos, les bouquins ont pu changer durablement la vie?
Oui, alors oui. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que vraiment, c'est les gens qui changent leur vie eux-mêmes. Tu vois, c'est pas moi. Mais c'est toujours un peu rigolo de me dire « Tain, c'est cool, mes mots ont croisé leur route au bon moment. » Et quand ils me disent « Ah merci, t'as changé ma vie », vraiment, je dis toujours « Alors vraiment, tu t'es changé ta vie, hein, tu vois. »
Je ne suis pas un gourou.
Moi, je n'ai rien fait pour toi et je n'étais pas là pour faire tous tes changements et c'est vraiment toi et ta volonté. Mais par contre, cool, trop cool de se dire « J'écris des bouquins pour qu'ils servent ou certaines vidéos pour qu'elles servent et elles ont servi, ne serait-ce qu'une fois. » Et je suis refait, quoi, tu vois. Mais même quand j'ai un mec qui est en fac de médecine qui vient de me voir en me disant « Putain, merci, grâce à tes astuces de mémoire, j'ai tout retenu », je sais qu'il me dit pas « Merci à moi d'avoir tout retenu ». Moi, dans ma tête, j'entends « Merci d'avoir fait circuler ce savoir qui n'est pas à moi au départ, que je retransmets, tu vois, à d'autres personnes ». Mais c'est de ça qu'il me remercie, quoi, tu vois. Et pareil pour la gestion du temps où j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Du coup, pour revenir à ta question de tout à l'heure, je suis très étonné de comment a marché Votre temps est infini, qui a encore mieux marché que mon premier livre.
Ah ouais, je savais
vois,
pas.
Au final.
Okay.
Et la version audio qui a fait des scores délirants. C'est-à-dire que j'ai appris au bout de 6 mois que ça faisait 6 mois qu'il était premier des ventes en version audio. Je connaissais tellement pas ça que j'avais même pas regardé, tu vois. Donc c'était fou, qui a été traduit, lui, dans tout ce pays. Enfin, c'est incroyable.
Ah ouais.
C'est incroyable. Et alors ça, bizarrement, tu vois, dans le truc d'ego ou de sensation, les traductions dans les autres pays, c'est ce qui me rassure le plus. C'est pas rassure, mais c'est ce qui me fait dire de « Ah oui, apparemment, le livre est pas mal ». Je me le dis pas avant. Je me dis juste, en Lituanie, quand ils prennent le livre pour le traduire et le vendre là-bas, c'est vraiment « Je suis son père en Lituanie ». Si le contenu du livre les intéresse pas, ils vont pas dépenser de l'argent pour le racheter et prendre le risque de l'éditer sur place, tu vois. Et c'est il y a qu'à ce moment-là où je me dis « Oh, bah apparemment, il est pas si mal foutu, du coup, tu vois. »
C'est que finalement, tes sujets sont tellement universels.
Et c'est universel, ouais. Ouais.
Je veux dire, la gestion du temps, c'est pareil pour tout le monde dans
oui,
le monde
ça,
entier,
ouais,
j'imagine.
Ouais.
Enfin, même si je crois qu'en fonction des cultures, on n'a pas forcément tous le même rapport au temps, mais...
On n'a pas tout à fait le même rapport au temps. Par contre, on a toujours l'envie d'avoir le contrôle de son temps, tu vois. Et encore une fois, là, on ne l'a pas dit, mais on en avait déjà parlé, toi et moi. C'est-à-dire que gérer son temps... Et celles et ceux qui nous écoutent, c'est important ce que je dis, c'est pas forcément être plus productif, hein. C'est vraiment ne pas perdre son temps, c'est pas être à fond dans le travail. Tu peux le faire, chacun son délire, mais c'est pas le but initial. Le but initial, c'est juste d'avoir conscience de son temps et de plus avoir la sensation d'en perdre pour bien en profiter pleinement, quoi.
C'est ça qui est génial dans ton bouquin, et en fait à chaque fois que je parle de ton livre à des gens à l'extérieur qui te connaissent pas forcément, ils me disent oh, ok, c'est encore un bouquin de bullshit de...
Ouais.
Et je suis là, non, en fait je trouve que t'as vraiment réussi à venir mettre un pas de côté par rapport à justement tous ces bouquins de productivité,
ouais.
Qui, productivisme,
ouais.
Où tu viens te remettre au centre toi en tant
oui,
que personne,
c'est ça, ouais.
En disant juste kiffe, tu
ouais,
vois,
c'est ça.
L'objectif c'est de kiffer
complètement.
Et ça aussi on l'apprend pas à l'école.
Non, bah non, ouais, complètement. Oui, c'est vrai qu'on pourrait même apprendre la gestion du temps à l'école. Regarde,
bien
c'est,
sûr.
C'est pareil, quand tu arrives au collège, qui est quand même un changement de rythme, au lycée, un autre, ou à la fac, encore un autre, qui te dit, alors voilà les clés d'une organisation, voilà plein de clés, et prenez celles que vous voulez, mais ça vous permettra de continuer à boire des coups le soir, tout en taffant bien pour votre fac. Il n'y a pas ça.
Personne.
C'est
tu te démerdes et tu apprends empiriquement, ou alors parce que ouais. Tu as des parents qui vont te,
oui, c'est
te
ça.
Former, quoi.
Et alors que c'est vraiment possible, tu vois. dans une des interviews pour Votre temps est infini, elle dit, mais du coup, vous profitez jamais. J'ai dit, vous rigolez, je pars à 17h du bureau. Je pars à 17h du bureau, je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Mon téléphone, il est toujours en silencieux.
Tu l'expliques dans ton livre, alors, pas,
je,
pas
je,
lu.
Je suis inaccessible, oui, c'est bon. Et je joue à la console le soir, ça me fait kiffer. On parle pas d'un mec qui est H24 boulot, quoi. Par contre, mes slots, ils sont toujours dédiés. Un slot travail, ce sera full travail. Et un slot pas travail, ce sera un slot vraiment kiff, tu vois.
Et c'est marrant parce que je trouve que, mais pareil, dans tous tes bouquins, il y a un moment donné où t'aurais très pu bien même.
Comme voilà. Un poil.
Tomber dans le truc de Fabien Olicard devient une sorte de gourou du développement personnel, etc. Ça te vient d'où, tu crois, ce petit truc qui fait la différence?
Je crois qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que j'ai vraiment conscience de tout ce que je sais pas et du parcours qui me reste à faire pour comprendre plein de trucs. Donc je sais que ce que j'écris est incomplet à ce jour, tu vois. Et je suis assez lucide là-dessus. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas du tout les épaules pour être charge d'âme. Et tu vois, un gourou, il doit quand même assumer le côté, ces gens, j'aurais fait croire qu'ils dépendaient de moi, donc maintenant ils dépendent de moi, tu vois. Alors moi, pas du tout, hein, chacun dépend de lui-même. Et dans les livres, on le sent de ça, quoi. C'est votre responsabilité, c'est pas la mienne, quoi. Donc, il y a ça aussi. Et puis, je pense vraiment le dernier truc, c'est que j'ai pas tant d'ego. J'écris pas pour l'ego, en fait, à la base. Par exemple, si je prends le Zénith de Paris en spectacle à la fin de l'année, là, il y a une partie d'ego qui joue. De, waouh, je vais finir au Zénith, c'est trop cool, tu vois. Par contre, quand j'écris un livre, encore une fois, c'est un autre travail parce que ton travail s'arrête quand t'as fini de l'écrire, en fait, quoi. Ton travail d'ego, entre guillemets, c'est une fois qu'il est édité, tu vois. Après, ça joue plus, t'es pas là dans le quotidien des gens et tout. Donc, au moment où t'écris, c'est tellement personnel comme phase que l'ego rentre pas en jeu. Et comme l'ego rentre pas en jeu, ben, il peut pas y avoir un côté gourouisant, tu vois. Moi, à la limite, je me dis, le seul truc que je vais me dire, c'est qu'est-ce que va penser ma mère en le lisant, tu vois. On n'est pas sur un grand gourou, quoi, tu vois, à ce moment-là. Mais ouais, je me protégerai toujours de ça. Et puis, dans le fond du fond, ça va avec le côté humble des connaissances. Je sais aussi ce que je suis pas, quoi. Je suis pas un expert. Et c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de moi dans mes livres, pour parler de mon expérience ou de où est-ce que j'ai été chercher les données. Mais je suis pas expert, j'ai pas fait 15 ans d'études en psycho, etc. Et je veux surtout pas m'attribuer en fait un rôle ou une aura qui est pas la vraie. Moi, je suis un passeur de savoir passionné. J'associe à ça mon expérience, mais je suis pas à la découverte de grand chose dans ma vie, quoi. Tu vois, je suis à la découverte d'anciennes informations qu'on oublie ou qu'on oublie de coller à des cas pratiques alors que ce serait bien lié. Donc je fais ce travail-là en fait de jointure entre les choses, mais je suis pas le révélateur, le créateur, le scientifique qui fait des études. C'est pas moi, quoi.
Mais ceci dit, tu crées quand même quelque chose quand tu fais la jointure, comme
oui,
tu dis,
bien
c'est
sûr,
ton travail,
bien
ça, pour
sûr.
Le coup.
Mais tu sais, c'est presque aussi tendre le bâton pour faire battre si je rappelle pas ce point-là, quoi, tu vois, de dire, ok, je suis pas spécialiste au sens bardé de diplôme dans le domaine. Je te rappelle que j'ai pas mon bac, hein, donc je veux surtout pas faire croire quelque chose, tu vois, comme ça, à l'inverse. Par contre, évidemment, j'ai pas mon bac, mais je me suis formé de mille manières, donc je suis pour l'auto-formation, donc pour la transmission du savoir, quoi, tiens.
Si vous voulez entendre l'histoire de succès de Fabien, le premier épisode qu'on avait fait, où là pour le coup on parle de tout ton parcours, de ta jeunesse, de ton enfance, de ton restaurant,
oui,
de raclette.
Oui, bravo.
Je vous mettrai le lien dans les notes, parce que c'est important aussi, tu vois, de faire de la cross-promotion. T'estimeras à combien de pourcentage ton niveau de connaissance de toi?
Ah, mon niveau de connaissance de moi, je suis très introspectif depuis très longtemps. Donc je pense que je me connais très bien, peut-être à 75-80%, donc c'est quand même un gros pourcentage. Et je me connais même assez bien pour savoir où est-ce que je mets des murs et ce que je dénie volontairement pour l'instant ou ce que j'ai pas envie de creuser volontairement pour l'instant. Tu vois?
Donc tu te connais dans la connaissance que tu veux avoir de toi.
Ouais, exactement.
C'est
ça. Ouais.
C'est très intéressant comme démarche.
Et une fois, j'avais fait une méditation tibétaine, tu sais, au bol et tout. J'avais fait ça à l'étranger, c'était intéressant. Et sur cette méditation-là spécifiquement, d'habitude, ça répond à rien pour moi, les méditations, ça m'apaise. Là, ça avait répondu à un truc. J'avais compris quels étaient les deux plus gros dangers de ma vie. Je te les dirai après, c'est trop personnel.
Okay.
Mais j'ai deux mots qui sont
Désolé.
Venus.
Désolé, encore une fois, vous l'aurez.
mais là, c'est trop perso, tu vois.
Oui.
Mais j'ai deux mots qui sont venus. Et je me suis dit, oh, en vrai déni, quoi. Et j'ai pensé des jours et des jours. Je me suis dit, mais non, en vrai, c'est ça. Sois lucide. Et c'est une parcelle de moi qui me manquait, tu vois.
Okay.
Et après, sur plein d'autres choses, voilà, je sais ce que j'ai pas envie de regarder, mais je sais exactement ce qu'il y a derrière, et je sais que je le regarderai plus tard à tel moment parce que je serai prêt à ça ou parce que ceci, cela. Mais je pense que j'ai fait un bon tour d'horizon. Mais encore une fois, l'introspection, c'est depuis que j'ai 12-13 ans, ouais, que je la fais. Hein, donc.
Et t'as pas la sensation que plus tu rentres dans l'introspection, comme tu dis avec tes spectacles, avec l'écriture de tes bouquins et tout, plus tu creuses et plus tu te rends compte qu'en fait, t'arrives jamais au fond.
Ah oui, non mais ça c'est sûr, t'arrives jamais au fond. Et
mais donc, est-ce que tes 70 ou tes 80% d'aujourd'hui, ils valent pas un 50% de demain ?
En fait, pour moi, t'arrives pas au fond des causes. Et pour moi, c'est autre chose d'avoir envie de creuser les causes. Tu vois ? Okay. Moi, je connais l'état des lieux et je suis pas sûr, et c'est, dont certains murs qui existent, je suis pas sûr de vouloir connaître les causes de tout. Je suis pas sûr de vouloir dire pourquoi à chaque question qui me vient sur pourquoi je suis comme ça à tel endroit, tu vois.
C'est étonnant de ta part. Tu vois qu'il y a un côté justement curieux.
Non,
tu
parce
vois.
Que je sais qu'il y a des trucs que je vis vrai mal et du coup, pour l'instant, je m'en protège, tu vois.
Okay, okay.
C'est plus ça, quoi, de non, non, je mets un mur. Ça me va. Moi, j'ai su le gérer, j'ai su l'accompagner, j'ai su machin. Donc, ouais. Et forcément, dans les livres ou dans les spectacles, le côté deep est un peu plus fort parce que, par contre, dès que tu parles à quelqu'un, donc que ce soit virtuellement au travers d'un livre ou dans une vraie conversation comme ça, t'as pas le temps de conscientiser tes murs ou pas tes murs. T'es obligé de verbaliser. Tu passes de l'exion au conscient. Tu vois, pour moi, il y a l'inconscient, l'exion et le conscient.
Attends, l'exion, je l'ai pas.
Parce que c'est un concept qui est pas légal, quoi, tu vois, qui est pas scientifique, mais en gros c'est un peu comme pour moi le temps imaginaire et le temps réel. C'est-à-dire il y a ce que tu penses, et ça c'est l'inconscient, tu sais pas que tu le penses. Il y a ce que tu penses consciemment, et ça pour moi c'est l'exion, c'est-à-dire ça existe dans ta pensée, mais ça n'existera que consciemment quand tu le donneras vie en le verbalisant. Et tu t'aperçois quand même que dans la plupart des conversations que tu as avec quelqu'un sur un sujet, ton sujet n'a jamais été aussi précis et abouti que quand tu l'as verbalisé. Et pourtant, tu croyais que tu étais abouti dans ta tête. Et c'est pour ça que j'écris souvent mes spectacles ou mes projets en parlant à mon équipe. J'ai pas besoin qu'ils me fassent un retour. J'ai juste besoin de parler avec eux parce que le fait de devoir leur développer, je suis en pleine... En fait, je trace au marqueur tous les petits trucs qu'il y a au crayon et même ceux que j'avais pas vus, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, l'exian, c'est quand tu l'as en tête, mais tu l'as pas encore vraiment verbalisé ou écrit quelque part.
T'en parles dans Le Bonheur, c'est ça ?
J'en parle un peu dans Le Bonheur.
Parce que je l'ai pas, c'est le seul que j'ai pas lu parce que je me suis dit,
non, mais
c'est bon, j'ai la méditation.
J'en parle pas à ce point, ce dont on parle là, j'en parle pas à ce point encore.
Mais c'est hyper intéressant parce que c'est à ça que sert aussi la thérapie, c'est que pour les gens qui sont jamais allés en thérapie, le simple fait de déblatérer des trucs. Moi, un truc que je fais avec une amie, c'est qu'on s'envoie et ça depuis le premier confinement, c'est qu'on s'envoie des messages vocaux sur WhatsApp, mais de long, hein, tu vois, 5, 6, 10 minutes, 15 minutes parfois quand on ne s'est pas envoyé de messages vocaux depuis très longtemps. Et en fait, le simple fait de parler à ton téléphone, parce que tu parles à personne d'autre qu'à ton téléphone, tu finis par sortir des trucs où tu as des épiphanies à un moment donné. Tu dis, ah putain, c'est pour ça que je pensais ça, quoi.
Ouais, la communication active, en fait, elle est importante. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, pour les thérapies ou... Tant que t'en as pas fait, tu dis non mais je vais pas raconter ma vie à des inconnus. Mais c'est pas le principe en fait. C'est au contraire parce que il te connaît pas donc tu t'en fous que tu peux te permettre de parler librement. Et c'est pas ce que va te dire la personne ensuite. C'est ce que toi tu te permets de dire à ce moment-là et tu dis ah putain j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça quoi. Et c'est vraiment la méthode des cinq pourquoi mais de manière active. Tu connais cette méthode-là des cinq pourquoi.
Attends. Je crois, hein.
En fait,
au bout de 5 pourquoi, normalement, t'as la vraie...
T'as la réponse.
T'as la vraie réponse.
De pourquoi je suis en colère? Parce que Fab était en retard. Pourquoi ça me met en colère qu'il est en retard? Mais parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et pourquoi c'est important, toutes ces choses que j'ai à faire aujourd'hui? Bah, parce que j'ai besoin d'avancer. Et pourquoi j'ai besoin d'avancer? Parce que j'ai l'impression que dans mon boulot, on me juge mal. Et tu vois, et tu redescends comme ça. Et les cinq pourquoi, c'est très intéressant à faire sur soi, comme sur les autres d'ailleurs, parce que ouais. T'aboutis vite à un vrai éclairage très rapidement et c'est cool, quoi.
Tu dis, c'est beaucoup ça, quand j'avais des gens à manager.
Ouais, bah ouais, ouais, c'est
souvent le premier truc n'est jamais le bon, quoi.
C'est jamais le bon. Mmh. Jamais. C'est une conséquence, une corrélation, un truc, quoi.
Pour revenir aux notes, je sais pas si tu connais Alain Damasio, l'auteur de science-fiction. Ça te plairait d'ailleurs, parce que je crois vraiment que...
Cite-moi un de ses livres.
La Horde du Contrevent.
Ah ben non, j'ai pas
qui est le plus connu, okay. Vraiment, qui est une sorte de best-seller énorme et tout, qui a un cerveau, je crois, potentiellement aussi tordu que le tien, hein, tu vois, donc franchement, tu devrais kiffer.
La Horde des Vents.
La Horde du Contrevent.
La Horde du Contrevent, ok.
C'est tout un univers, okay. Science-fiction, etc.
J'aime bien la SF.
Vraiment, tu vas kiffer. Et en fait, il s'est enfermé pendant 5-6 mois pour écrire ce bouquin tout seul,
okay.
En mode dans une maison en montagne en Corse, etc. Et en fait, il s'enregistrait des notes vocales d'automotivation, tu vois.
Okay.
Et en fait, il y a un titre qui est sorti suite à ça. En gros, je sais pas si tu connais ce mec qui s'appelle Ron, qui est un artiste, ouais. Musical. Il y a un titre dedans qui s'appelle Bora Vocal, où t'as la voix de Damasio qui parle.
Okay.
Et en fait, il a ressorti une de ses vieilles notes. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il raconte, parce que juste, il est en train de dire « La Horde de Contrevent, tu vas la réussir si tu restes dans ton univers, machin. » Tu vois, et puis en fait, il hurle, il est en train de se dire « Et puis, il faut pas que tu te disperses, c'est de la merde, la dispersion, etc. » Et j'avais écouté ça la première fois, je savais même pas que c'était lui. Je me suis dit « Putain, c'est énorme quand même. »
Ouais, ouais. Et c'est drôle de s'être laissé des notes comme ça, parce que on est, en fait, il y a un truc qu'on fait jamais, c'est verbaliser à nous-mêmes. Et on est des sacrés enfoirés, hein, dans notre jugement personnel. Moi, je pense que le plus violent, ce serait que tu puisses remonter le temps, tu vois, et tu rencontres où là, il y a quelqu'un qui débarque et c'est le toi de dans 5 ans. T'imagines la connaissance qu'il a de toi, tu peux rien lui faire à l'envers. T'es obligé de tout admettre avec lui. Et je pense que ce mec-là, plus vieux que toi, ou toi qui rencontres un toi plus jeune, tu te juges plus violemment que personne pourrait te juger, tu vois. Et du coup, tu seras un vrai bourreau, en fait, avec l'autre, quoi.
Ma psy m'avait donné un très bon truc par rapport à ça. Elle m'a dit, quand t'es en train de te juger trop durement, demande-toi, est-ce que tu seras en train de dire ça à une amie,
ouais.
Ou à un ami.
Ouais, c'est ça.
Et bah, 100% du temps, non.
Ouais, bah oui. Non, mais c'est ça, se passer des savons à soi-même, c'est pas solutionnant du tout. Tu vois,
pour revenir à ton bouquin que tu sors là, donc, qui s'appelle L'Antiguide de la Manipulation, c'était vraiment une... Donc, comme tu disais, tu l'avais, toi, d'entrée.
Ouais. J'avais le sujet de la manipulation et je savais ce que je croyais vouloir écrire dessus.
Ah.
Mais je voulais juste, alors ça sera toujours mon but de pas faire des doublons de livres qui sont déjà super bien traités et tout ça. Du coup, je me suis replongé dans tous les livres que j'avais sur la manipulation et je me suis dit, non, ce point de vue-là n'existe pas encore. Du coup, je dis pas que ça apporte quelque chose, mais en tout cas, puisqu'il n'existe pas, je me sens legit à l'écrire, quoi, tu vois. Et donc j'avais ce truc-là sur le côté, la manipulation, elle peut être honnête, tu vois. Et c'était vraiment mon fer de lance. Le livre, il aurait pu s'appeler Guide de manipulation pour les gens gentils. Tu vois, et l'anti-guide, j'ai bien aimé le truc parce que, en fait, le mot manipulation, je sais que ça me coupe énormément de ventes. Tous ceux qui ont un a priori négatif sur le mot manipulation vont avoir énormément de mal à le prendre dans les mains pour le feuilleter. D'où la couverture très adoucie. Il n'y a pas les codes, les fils qui guident des gens. Hein.
Puis regarde comme tu as une bonne tête, tu es en train de sourire.
Et puis surtout l'anti-guide, qui est quand même...
Très gros.
Le mot est 10 fois plus gros que le mot manipulation. T'imagines bien que c'est pas un hasard, du coup, tout ça. Quoi. Et l'idée, c'était de parler de la manipulation honnête, de se dire, j'ai envie d'écrire un livre qui dit plusieurs choses, quoi, qui dit que déjà, on se manipule tous. C'est humain de faire ça et c'est souvent inconsciemment. Tu vois, une manipulation, ça aurait été de te dire, dans 90% des cas, c'est fait inconsciemment. Le 90% sort de nulle part. Je le sais, tu le sais. Mais néanmoins, le fait que je l'utilise, je sais aussi que ton cerveau va accorder de la valeur à ce que je viens de dire.
Bien sûr.
Tu vois. Donc, on se fait plein de petites manipulations comme ça. Et
bah, le simple fait de communiquer, en fait. C'est un truc que tu manipules d'entrée. Ouais, et je trouve que c'est hyper important que tu dises ça parce que c'est...
En fait, l'être humain ne sait pas ne pas communiquer. Parce que même quand il communique pas, il communique des choses par sa présence, ses gestes, ses intonations, son regard, l'expression de son visage, sa tenue vestimentaire, tout. Et une fois que c'est établi qu'on ne sait pas ne pas communiquer, ben on comprend vite qu'on ne peut pas ne pas manipuler dans nos relations, parce qu'on a toujours une attente vis-à-vis de l'autre. Même si c'est, on va manger une salade dans 10 minutes, quoi, tu vois, mais peu importe. On a toujours une attente. Et du coup, à partir de ce moment-là, une fois qu'on admet ça, on sait, ok, est-ce que je vais être ce manipulateur inconscient qui fait tout n'importe comment et qui va peut-être faire culpabiliser mes potes parce que j'ai besoin que tu me déménages dimanche et que je vais utiliser inconsciemment tous les leviers dégueulasses pour que tu le fasses, tu vois? Ou est-ce que je vais rester dans le camp des gentils en étant bienveillant ou à minima honnête? Et honnête, ça fait très longtemps, parce que dans mon introspection, j'ai théorisé ça pour moi, que j'ai compris quelles étaient les trois clés, selon moi, de la manipulation honnête. Et pour le coup, je te les donne rapidement. C'est d'abord laisser le libre arbitre à l'autre, tranquille. Est-ce que vraiment j'accueille ton oui ou ton non avec autant de bienveillance? Si je suis OK avec ça, c'est-à-dire j'ai besoin que tu me déménages, si tu me dis non, est-ce que je t'en veux ou pas? Tu vois, il faut passer ce cap-là et laisser vraiment le libre arbitre à l'autre et l'accueillir avec bienveillance. Le deuxième truc, c'est on ne ment pas sur les données. Donc, soit par omission, soit en mentant volontairement.
En changeant le chiffre.
Tu vois, c'est ça.
En changeant le point de vue du chiffre.
Bah ouais. Ou en te disant, si tu veux passer au déménagement, juste bouger un ou deux cartons, alors qu'en fait, t'es le seul que j'ai appelé et on va tous taper tous les deux, quoi, tu vois. Donc, ou en changeant des chiffres. On voit ça dans l'actualité en permanence.
Voilà.
Et la troisième chose, c'est de déclarer aussi ouvertement son intention. En ça, par exemple, je trouve que la vente est souvent moins malhonnête que ce qu'on pense en manipulation, parce que l'objectif est déclaré, c'est nous vendre le produit, donc on le sait, donc on connaît l'enjeu, tu vois. Si moi je veux que ma sœur arrête de fumer parce que je m'inquiète pour elle, vous allez peut-être d'ailleurs vous dire, bah non, mais là il a raison, c'est subjectif.
Bien sûr.
On touche à la vie d'une autre personne, c'est toujours subjectif. Mais
peut-être
en tout cas,
cette personne a envie de fumer, de mourir à 60 ans et ça ira très bien.
C'est vrai, on n'est pas Dieu, quoi. Tu vois, on peut pas décider pour l'autre. Et par contre, je peux lui déclarer mon intention et dire, tu sais, moi ça m'inquiète beaucoup et je te le dis, je crois que j'ai raison et je ferai sûrement tout pour que tu arrêtes de fumer. C'est déclaré, c'est cool. Et après, bah, tout ce que je vais établir, le faire sans mentir sur les données. Et puis, bah, si jamais un jour elle vient me voir en disant, tu peux arrêter s'il te plaît, j'en ai vraiment marre et moi je ne veux pas arrêter de fumer. Et ben, il faudra que je dise, ok. Tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, on reste manipulateur honnête, entre guillemets.
Mm-hmm. Je vais utiliser ces trois clés dans un extrait, tu m'excuseras.
Ok, avec plaisir.
Et toi, je te le dis. Mais surtout, je vais dire, on parle de plein d'autres choses.
Bah oui,
arrêtez de déconner,
sûr,
quoi.
Bien sûr.
En tout cas, merci pour ça, parce que vraiment, je trouve que c'est du... Enfin, tous tes bouquins, d'une manière générale, je trouve que il devrait être déclaré d'utilité publique, en fait. Non, mais vraiment, je trouve que t'apportes sur des sujets qui sont essentiels. Et tu vois, la manipulation, effectivement, il y a eu plein d'autres bouquins auparavant, mais je trouve que déjà de base, ton avant-propos de venir dire, mais en fait, quand on communique, on manipule, donc
oui,
est-ce qu'on pourrait juste mettre de côté,
non, mais manipuler, c'est mal.
Voilà.
Et parce on manipule tous.
On manipule tous, en fait, tout simplement. Et après, tu expliques aussi tous les biais cognitifs qui sont hyper importants, qu'on subit ou qu'on utilise parfois à l'encontre des autres sans vraiment le savoir, de façon un peu empirique, quoi.
Il y en a une qui va intéresser ceux qui nous écoutent. Alors, je me permets de le dire pour leur faire un exemple, mais l'erreur fondamentale d'attribution. Je sais que c'est celui, quand je le dis, où tout le monde se dit non, pas moi, mais en fait, si. En gros, c'est une auto-manipulation, souvent un biais cognitif, et je vais vous montrer ce biais-là, il est incroyable. On a tendance à attribuer les échecs d'une personne à des facteurs internes à cette personne, et ses réussites à des facteurs externes. Exemple, cet homme n'a pas de travail, il est au chômage parce qu'il n'en cherche pas assez. Par contre, s'il trouve un super travail, c'est qu'il a eu du bol. Tu vois. Et à l'inverse, pour nous, c'est l'inverse. On a tendance à attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs et nos réussites à des facteurs internes. C'est-à-dire que là, ma dernière vidéo, elle n'a pas marché parce qu'il fait beau et que là, en ce moment, les gens, ils sont dehors et du coup, ils ne regardent pas, nanana.
Puis l'algorithme.
Et l'algorithme. Par contre, si elle a cartonné, c'est parce que ma vignette était incroyable, que j'ai trouvé le bon sujet, que là, j'avais fait un super travail, tu vois. Et ça, on sait que ça nous fait ça, que c'est vrai, qu'on a tendance à dire, putain, il n'a pas eu son bac, bon, il n'a pas révisé, lui. parce qu'en fait notre cerveau est flemmard, il veut pas aller chercher les données, donc il préfère conclure très vite, quoi, tu vois. Et du coup prendre conscience de ça et de se dire ok, c'est de ma responsabilité d'aller chercher les données pour comprendre, ben c'est déjà arrêter de se faire manipuler par son propre cerveau, c'est déjà pas mal quand même.
Merci pour ça en tout cas, vraiment.
Je t'en prie.
T'en as d'autres, j'imagine, à venir.
Des livres. Ah ouais. Oui.
Tu vas te remettre à creuser.
J'ai encore 4 ou 5 sujets, je crois, d'écrits, de choses dont je suis sûr d'avoir envie de parler, où je suis sûr d'avoir mon point de vue à donner, tu vois, où je sais pas à me dire qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, et où je suis sûr que d'avoir envie que ce soit publié. Et après, je me forcerai jamais à écrire. Donc, si un jour j'ai l'impression d'avoir essoré ce que j'avais à dire, je crois que je m'essaierai un jour à la fiction dans ce cas.
Ok.
Voilà.
Ah, c'est une.
C'est pas du tout ta question. J'en ai jamais parlé, mais toujours un petit exclu.
Merci beaucoup.
Podcast à Fab.
C'est un truc qui te titille, c'est ça?
Ouais. J'ai peur de pas avoir la compétence, mais je suis assez bien placé pour savoir qu'il faut arrêter de penser ça. Mais je pense que je m'y essaierai et je me dis déjà. Mais ce sera sûrement dans 5-6 ans, tu vois. Et je me dis déjà, si je suis vraiment pas satisfait, je le mettrai en open source, gratuitement.
Ok.
Et comme ça, j'aurai pas un contrat d'obligation que l'histoire vous plaise. C'est juste si vous voulez lire ce que j'ai fait et c'est ok pour vous, je l'ai mis là. Si vous voulez pas lire, c'est ok, tu vois.
Je sais pas si t'avais suivi, mais il y a Thomas Hercouet qui avait écrit son bouquin sur Wattpad.
Ah oui, enfin j'ai pas suivi, mais j'en ai entendu parler.
Prépublié de ça, mais c'était pas du tout le projet, je crois, à la base. C'était juste de l'écrire toutes les semaines avec sa commu, en fait.
Ouais, c'est incroyable.
C'est marrant, hein.
Ouais, ça c'est assez incroyable. Mais ouais, écoute, j'ai encore plein de sujets et il y a des anti-guides qui reviendront. C'est aussi pour ça que j'ai bien réfléchi à ce titre.
Ok.
L'anti-guide de 3 petits points.
C'est une très bonne idée.
Tu vois, un anti-guide de la mémoire, j'aimerais bien.
Ah.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé mémoire dans un angle et j'aimerais maintenant en parler dans un autre angle et ce serait
hyper
plus un anti-guide.
Ok. Tu repars on the road également?
Alors oui, je repars en tournée bientôt. Là, j'ai une date en juin qui compte pas tellement parce qu'elle est très isolée des autres. Mais je repars en tournée de septembre à décembre, si tout va bien.
Hein, j'étais évidemment. À Annecy l'autre jour, t'es partout dans les rues.
Oui, je vais jouer à Annecy, évidemment.
Fabien est partout.
Et après la grande dernière au Zénith de Paris, le 11 décembre. Et après, c'est terminé pour ce spectacle. J'ai hâte de le reprendre et j'ai hâte de le terminer, pour être très honnête. Parce que dans ma tête, il devait se terminer le 20 novembre 2020.
Oh ouais.
Donc j'avais la projection d'écrire de nouvelles choses. Et il a fallu que je me réapprenne à aimer le fait de me dire « Allez, je repars encore jusqu'à fin 2021 avec ce spectacle que j'aime bien. Mais tant que je le joue, ça m'empêche d'écrire la suite. »
Ah oui, t'y arrives pas.
Non, parce que si j'écris du nouveau, c'est pour le jouer, quoi.
Ouais.
C'est pas pour le stocker dans un coin et le soir rejouer autre chose. Donc, j'écris mes pistes d'idées et mes envies du nouveau, mais il n'y a aucun mot réellement posé en mot à mot, quoi, tiens.
Ok. Merci beaucoup, Fabien.
Merci à toi.
Je mettrai tous les liens, hein, si vous voulez suivre Fabien sur les réseaux.
Dans la rue.
Acheter dans la rue, n'hésitez pas. Stalking.
C'est gênant.
acheter des billets pour venir te voir et puis effectivement vous procurer ces super bouquins.
Merci à toi pour l'invitation.
C'était super.
C'était cool. À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.